Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
On est toutes les deux aujourd'hui ici dans le studio de Canal B pour parler, pour chroniquer sur la littérature, sur les livres, sur les BD. Et tiens, pour moi aujourd'hui, ça sera une BD qui s'appelle Mes 14 ans, enquête sur ma découverte de la sexualité par Lucie Michaelian. C'est une bande dessinée parue aux éditions Gallimard au 26 avril de cette année. Donc franchement, c'est tout chaud chez les libraires. Eh bien, il y a Blaise également qui nous a préparé une chronique de littérature jeunesse cette semaine pour cette grande lectrice du haut de ses 10 ans. Et toi, Sandrine, tu es venue avec un roman extraordinaire.
Oui, je suis venue avec un roman extraordinaire, mais juste pour répondre au fait que tu parlais de sexualité dans cet ouvrage, et quand tu disais que c'était tout chaud, je n'ai rien à ajouter.
C'est bon, ça.
Wow. Alors, ça dans sa demeure.
Et ça voilà. Sera très chaud tout à l'heure, d'ailleurs.
Caliente, oui. Dans le studio. Alors, Seul en sa demeure. Oui, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, de Cécile Coulon. Je l'ai lu l'année dernière et en proposant cette chronique, je me suis dit quels étaient les ouvrages qui m'ont plu. Il y en a tellement. Et en fait, celui-ci, Seul en sa demeure, a surgi. C'est un ouvrage très, très intéressant. Un ouvrage entre le roman gothique, entre le roman de suspense, le thriller, le roman d'amour, le roman d'épouvante. Allons-y avec panache, avec audace, Seul en sa demeure. J'en profite pour dire bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Le désir dans Seul en sa demeure, écrit par Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Alors juste quelques mots sur cette maison d'édition L'Iconoclaste, dont la définition le dit en elle-même. C'est singulier, c'est une maison d'édition pleine d'audace. Ce sont des auteurs et des autrices que j'aime. Et Cécile Coulon est une écrivaine que j'apprécie tout particulièrement. La personnalité très forte, entre sensibilité et douce puissance. Alors, qui est cette femme? Elle a écrit des romans, elle a écrit des essais, des nouvelles et de la poésie. Je suis très fan de poésie et aussi un roman jeunesse d'ailleurs. Je viens d'y penser, ça pourrait intéresser Blaise. Et tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors Cécile Coulon, voilà, cette particularité d'écrire avec ce style d'une fraîcheur saisissante. Et ses poèmes, tout particulièrement Les Ronces, m'ont beaucoup plu. Je vous suggère à l'occasion de vous en approcher. Et ce qui est bien avec la poésie, c'est que ça peut se prendre dans tous les sens.
On s'approche des Ronces.
On s'approche.
T'as peur de rien,
Sandrine. Moi, j'ai peur de rien. Non, j'avoue. Et puis alors, en studio, encore moins. et voilà, Les Ronces. Et puis ces romans, tu me parlais d'une Bête au paradis.
J'ai adoré Une bête au paradis. C'est le roman juste qui précédait celui-ci que tu vas chroniquer. Tout à fait.
Là. Paru en 2019 chez l'Iconoclaste. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Seul en sa demeure, dont je disais tout à l'heure en amuse-bouche, si je puis dire, que c'est un roman entre le gothique, entre le suspense, le thriller, le roman noir, le mystère. Peut-être que tu t'es souvenu d'avoir lu Rebecca de Daphné du Maurier, qui a été tournée après mise en scène et par Alfred Hitchcock. On est exactement dans ce même climax. Revenons à Seul en sa demeure de Cécile Coulon. On a en fait une femme qui a 18 ans qui s'appelle Aimée. Aimée, déjà un prénom qui évidemment annonce...
Prédestinée. À la merde.
Elle s'appelle Aimée. Donc déjà, voilà. Et puis elle va rencontrer un homme qui s'appelle Candre Marchère, qui a déjà eu une épouse, qui est la pauvre et décédée, et on rentre tout de suite dans le fil du sujet, à savoir, elle n'est pas décédée comme ça, voilà. C'est un peu aussi, comme les romans d'un auteur, d'un metteur en scène, Claude Chabrol, pareil. Mmh. Il y a quelque chose de cette atmosphère-là, et puis voilà, donc cette première épouse...
On ne sait pas comment elle est morte.
Non, enfin... Voilà. Dans le livre, voilà, au fur et à mesure qu'on arrive dans les pages,
on va comprendre
tout ça. On découvre les noces, on va découvrir ensuite une servante, on va découvrir des différents personnages, on va découvrir aussi un lieu.
Une servante inquiétante.
Inquiétante. Et on découvre un lieu qui s'apparente à une description, comme on pourrait le dire, dans un personnage. Ce lieu est un personnage à part entière. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des cris d'oiseaux, on va parler aussi... de lieux hantés peut-être, de menaces, avec beaucoup de choses surnaturelles, évidemment, de désirs, d'amour. Bien sûr, c'est un roman où les personnages se rencontrent d'une manière physique, d'une manière émotionnelle, tout étant...
Et charnel.
Et charnel.
Lorsqu'ils ne sont pas chacun dans sa chambre.
Oui, ils dorment séparés, exactement, c'est vrai. Après, ça c'est une petite anecdote, mais c'est peut-être aussi là que durent les histoires. De ne pas dormir tout le temps ensemble.
Je continue de partager mon lit, ça va.
L'important, c'est de s'y trouver de temps en temps.
Exact.
Mon Dieu, je sens qu'on dérape. Alors, on pourrait écrire des poèmes.
Ah bah, je ne sais pas ce qui se passe ici, dans ce studio aujourd'hui, c'est chaud.
Mais Cécile Coulon a cette écriture absolument délicieuse, entre délicatesse, broderie, dentelle, tout le charme du 19e siècle. Et puis d'un seul coup, elle se dénude son écriture pour arriver à quelque chose de plus direct.
Il y a une chose aussi que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le côté emprise, comment on peut se sentir complètement encloisonné.
Oui. Exactement. Le mariage est un mariage arrangé, décidé par le papa, le père d'Aimé, même si on pourrait comprendre que c'est pas vraiment imposé. Moi, je crois que c'est plutôt imposé, plutôt décidé, comme ça l'était beaucoup au 19e siècle. Je pense qu'on est dans quelque chose aussi d'inconscient. À quel moment on est vraiment libre ? Quand ton papa te dit « je vais te présenter telle personne, ça sera bien pour toi ». Jusqu'où la notion de liberté intervient à ce moment-là ? Moi, j'ai très envie de vous lire un passage. Je voudrais juste proposer avant quelques mots sur cette maison d'édition, voilà, l'Iconoclaste. Et je salue aujourd'hui la fondatrice, évidemment, dont j'ai appris le décès hier, Sophie de Civry, fondatrice et directrice de l'Iconoclaste. Je pense à ses proches, je pense à sa famille. Et je me dis que je suis vraiment... chanceuse d'avoir connu cette maison d'édition, qui est une maison d'édition singulière, qui propose des auteurs et des autrices formidables, connus, pas connus, vraiment. Donc, mes pensées à la famille et à Sophie de Civry.
Entièrement d'accord avec toi.
Et alors, rentrons dans ce texte. Alors, la difficulté, ça a été de choisir, parce que tout me plaît dans ce livre, du début à la fin, et évidemment, je ne vais pas commencer par la fin. J'ai pris la page 33. Quand Aimée arrivait au domaine Marchère, dans la paume du Jura, elle découvrirait, avant d'apercevoir à mi-pente, le toit noir de sa nouvelle demeure, le cortège massif et sombre de bois qui longeait la route, bordé par deux fossés parallèles, décorés de hauts troncs couleur d'entrailles. La voie, quand elle quittait la vallée, s'aiguisait comme une serpe ronde et tranchante. Bientôt, Aimée reconnaîtrait les chevaux de Candre, soumis à un seul trajet. À chaque nouvelle sortie, on choisissait les bêtes en fonction du lieu où le maître se rendait. En son écurie, les chevaux occupaient par deux des boxes larges fendues par une barrière de planches espacées. Sur la porte des enclos, le maître avait fait graver, non pas les prénoms des bêtes, mais leur destination. Église, marché, clos de ville, bourg. Une dizaine de couples équestres se partageaient la cour, une fontaine crachait son eau glacée pour les chevaux qui rentraient de course, luisant de pluie ou de sueur, beaux comme des dieux tombés du ciel. Avant de passer devant l'écurie, Aimée sentirait passer dans son cou ce vent qui mordait, même au cœur des étés forts, tantôt sec et brûlant, tantôt dur et glacial. Elle aviserait, avant le dernier virage, la grande croix d'un bois sombre et perlé qui marquait l'entrée de la forêt d'or. Madame Marchère frissonnerait comme chaque fois qu'un étranger pénétrait les terres de Candre en sa compagnie. Aimée apprendrait que cette forêt deviendrait son empire. Sa noirceur et ses secrets avaient éduqué, formé, protégé Candre dès son enfance. Son époux ne travaillait pas ses bois comme ses scieurs, ses renardiers et ses colporteurs, non, mais comme un homme qui aime plus la forêt que ses semblables. Aimée aurait le temps de deviner, à l'approche du dernier virage, de longs M rouges qui décoraient en lisière les écorces les plus claires. Puis la voiture virerait subitement. Aimée en serait ébouie, et quand elle recouvrirait les yeux et rajusterait la dentelle de son corps, elle assisterait au plus étrange des spectacles, surgissant de cette boîte d'arbres noirs, d'épines et de longs cris d'oiseaux invisibles. Le domaine Marchère lui apparaîtrait nettement, comme un paysage après la brume. Une fois le brouillard des sapins levé sur la colline, Aimée retiendrait dans sa gorge un hoquet de surprise. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil. Jamais elle n'aurait pensé y vivre.
Seule en sa demeure, Cécile Coulon, édition Iconoclaste. Merci pour cette lecture.
Avec grand plaisir.
C'est beau ça, c'était tout doux.
Magnifique.
Voilà. Eh bien, moi, je vais vous parler de mes 14 ans, enfin, pas les miens, celui de Lucie Michaelien. Mais d'ailleurs, je trouve même que la meilleure personne pour parler de ses 14 ans, c'est la personne concernée, n'est-ce pas?
Il y a un an, au fond de ma chambre d'ado, entre un vieil agenda et un carnet de correspondance, j'ai retrouvé un gros carnet jaune avec écrit en énorme au marqueur noir
« Journal intime ».
Puis
« Laisse parler les gens ».
À l'intérieur, une année scolaire d'état d'âme et de secrets. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me suis replongée dans la tête d'une jeune fille de 14 ans, la mienne.
Il paraît que Manon est sortie avec Alan pendant une nuit blanche. Pourtant, Caro sort toujours avec Alan et Manon avec Romain B. Romain B, ah, quelle horreur!
On était en 2003 et cette année-là, ma seule obsession, au-delà de me faire des amis, d'avoir des bonnes notes au collège et de passer le moins de temps possible avec mes parents, c'était de perdre ma virginité.
Maman a toujours pas dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Bon, cela dit, je suis pas pressée. Et personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain?
Oui, bien sûr qu'on comprend, mais faut-il encore pouvoir se replonger dans ces années-là? Et je trouve ça assez extraordinaire, en fait, le travail qui a été réalisé, à savoir quand même que Jeanne Bouézek, qui est journaliste tout comme Lucie Michaelien, se sont mis d'accord dans une production de podcast. Donc, il existe un podcast qu'on va trouver notamment sur le site de Jeanne Bouézek, qui est la productrice de ce podcast en 12 épisodes et qui raconte justement Lucie qui découvre le journal intime de ses 14 ans chez ses parents par des raisons d'aménagement d'appartement. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais toujours est-il que c'est devenu vraiment le matériau d'une très belle collaboration podcast. Et Lise Chéteau, qui est vraiment une jeune femme pétillante et qui a pris à bras le corps le dessin de ce roman graphique, fait un dessin qui est plein d'énergie, il est coloré, il est dense. Il y a aussi une grande culture de fanzine chez cette jeune femme, donc on perçoit bien qu'il y a un côté assez Canal B, hein, si j'ose dire, dans ses dessins. Et puis par ailleurs, voilà, c'est un voyage, on peut peut-être trouver un peu long de suivre tout le temps cette Lucie dont ses 14 ans, parce qu'il y a des vrais moments d'ennui aussi dans la vie de Lucie, et on le sent dans la narration et dans les dessins, parmi les pages, comme ça, on va sentir des choses, une obsession sur cette virginité, sur cette éclosion sexuelle qu'elle désire vraiment. Mais d'un autre côté, mais quel bonheur, quoi, de le lire et de se dire, ouais, c'était un peu comme ci, un peu comme ça, aussi chez moi, ou alors chez nos enfants, parce que, je ne sais pas toi, mais moi, en fait, mes 14 ans, c'était dans les années 80, quoi. Par contre, j'ai une fille de 25 ans, bon, bah, je pense que là, elle était en plein dedans, début d'année 2000. Non, j'ai dit des conneries quand même, parce qu'elle est quand même née en 97, ça serait très inquiétant. Enfin, toujours est-il, je me comprends, il y a une effervescence, quelque chose qui te dit que tu as vécu toi-même, que tes enfants vivent dans ce moment charnière de la vie qui est de passer de l'adolescence vers vraiment sa vie de femme, quoi, sa vie par le côté de sa sexualité, comment on est déjà pétri et qu'on continue de s'infliger, malgré nous, quoi, les injonctions, comment on va suivre des carcans qui sont là depuis tellement longtemps et qu'on a du mal à s'en débarrasser, à s'en dépatouiller, même si, voilà, petit à petit, je pense aussi avec le mouvement. Et justement, la trentaine aujourd'hui de cette Lucie a fait qu'on a mis de la distance et on observe tout ça. Donc, vraiment, c'est un roman graphique que je conseille à tous celles et ceux qui veulent plonger dans l'adolescence. Tu voulais me dire un truc, Sandrine ?
C'est très intéressant, effectivement. Et ça me rappelle un film, malheureusement, j'ai oublié le titre, l'histoire d'une jeune femme qui plonge dans son adolescence,
ouais.
Valérie Nomeski, je crois. Camille Redouble.
Ah ouais, Camille Redouble, trop bien. À voir, quoi.
À voir et à revoir. C'est toujours très intéressant de faire ce parallèle avec la femme que nous sommes, la femme, la jeune fille qu'on était, avec souvent ce désir d'émancipation. À quel moment on s'émancipe de ses injonctions, de son carcan, de plein de choses, et à quel moment on devient soi et libre.
Absolument. Je tiens quand même à préciser, hein, parce que je dis en plus dans le dessin très Canal B, et puis dans des choses qui se passent, bien sûr, on voit bien qu'on continue d'être jeune dans cette belle radio et tout ça, mais il y a quand même Lucie qui va évoquer, hein, une radio que je n'écouterai même pas sur la contrainte de la torture. Donc on va l'excuser quand même, peut-être, mais c'est le lot de la plupart de jeunes, hein, voilà, c'est, tout le monde n'est pas abonné à la radio alternative, mais toujours est-il que, voilà, en dehors de ce petit truc-là qui m'a fait tiquer comme ça, tu vois, je me suis raidie un petit peu, serré les fesses, et puis après, c'est passé crème, pas de problème, c'est le cas de le dire pour elle aussi, hein. Voilà. Je ne m'attarderai pas davantage parce que Blaise n'a pas pu venir aujourd'hui en studio avec nous, et combien même je me dis que tant mieux, vu tout ce qu'on a raconté comme conneries. Enfin, c'est pas très grave, je crois qu'elle a l'habitude quelque part. Et bah, elle a quand même préparé une chronique littéraire, génial. Donc super. On va l'entendre. Allez, une petite virgule musicale, c'est parti, mon kiki.
Thank you.
Eh bien, c'est le moment de la chronique littérature jeunesse avec toi, Blaise. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un livre qui te tient à cœur. C'est lequel ?
Ça s'appelle Tonton Schlinger et ce livre est incroyablement sale.
Ah, oh, sale ?
Sale.
Il a été écrit par qui ?
Pedro Manas. Il faut savoir que c'est un Espagnol et il a été traduit par Anne Calmet et David Schweilvelson.
La maison d'édition peut-être ?
La joie de lire.
Tonton Schlinger, comme son nom l'indique, est un livre tout pourri, c'est ça ?
Non, pas pourri, mais je veux dire que ça parle de la saleté d'un tonton bah, du coup, qui schlingue. Ben, ça raconte que ce tonton Schlinger, il s'appelle Muffin, Monsieur Muffin. Il travaille, pour la petite anecdote, dans une usine qui fait que des produits de beauté, de nettoyage, de savon, enfin tout ça. Mais dès qu'il sort de son usine, après une grosse journée bien chargée, eh bien, il est un peu... Vous savez, les aimants, ça attire le métal. Le miel, ça attire les mouches. Eh bien, lui, il attire la saleté. Eh bien, dès qu'il sort, toute la saleté vient se coller contre sa peau. Mais il faut dire que c'est un homme très propre, très soigné. Tous les matins, il va dans son bain. Il prend un bon bain chaud avec du savon, je le dis juste. Hein. Il est très soigné. Hein. Du coup, comme je vous l'ai dit, il prend son bain. Il se coupe les ongles des pieds. Il se lisse la barbe. Et même qu'il plonge sa tête dans un seau d'eau de Cologne avec 4 gouttes de Javel. Très propre. C'est un homme très solitaire. Okay. Il vit seul dans sa maison. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. Il faut dire qu'il n'aime pas les enfants. Il les déteste. Même qu'il dit que lui, il n'en était jamais un, alors que si. Parce qu'il y a un passage où, eh bien, il va nous raconter un peu quand il était plus enfant, il vivait avec sa grand-mère dans une maison. Un soir, il va prendre son bain. Son bain est tout noir, hein, bien sûr, avec plein de saleté. Et il va entendre toquer à la porte. Donc il va sortir de son bain tranquillement. Et puis là, il va se dire, mais à cette heure-ci, il n'y a que les policiers ou les voleurs qui peuvent venir. Et justement, il redoutait de ces deux choses-là. En fait, il entend dit toc-toc. Donc, il se dit, ouais, les voleurs, ça toque pas à la porte. Il entend, hello, il y a quelqu'un ? Sur le seuil couleur sang, oui, je le précise. Eh ben, il y avait une petite fille qui s'appelle Emma et qui se prend pour sa nièce. Or, il s'attendait pas du tout à ça parce que il pensait pas du tout avoir une nièce. Il va être un peu perturbé. Mais en fait, il va découvrir qu'Emma n'est pas si horrible que ça. Et il va avoir une relation un peu... Comment dire en fait, il va avoir des liens, quoi. Des liens, mais sympathiques. Il va s'attacher à elle.
Comme un tonton.
Comme un tonton.
Blaise, tu as choisi un passage de ce livre pour une lecture ?
Oui, c'est exact. Les deux personnages principaux, donc Muffin et Emma, vont se retrouver dans la salle de bain. Et ils vont devoir déboucher l'eau de la baignoire parce qu'elle est toute sale. Donc Emma va retirer un bouchon de saleté et de cheveux. Et grâce à ce fait, ça va relier, ça va souder aux canalisations du voisin. Et du coup, ils vont pouvoir écouter les conversations.
Les conversations ?
Les conversations des voisins. Muffin tourna le bouton droite, celui de l'eau froide, pour faire partir les dernières saletés. Mais, à son grand étonnement, pas une goutte ne sortait du robinet. D'ailleurs, la seule chose qui en sortait n'était pas vraiment du genre drôle. Des profondeurs des canalisations de la vieille maison s'élevait la voix de Monsieur Cooper, son collègue et voisin du numéro 13. « Allô, Patty ? Patty Hall ? Quel drôle de phénomène !» murmura Emma, ébahie. « Un baignoirophone ! Chut ! » fit Muffin en portant le doigt à ses lèvres. « C'est le voisin !» D'une façon tout à fait mystérieuse, le fait d'avoir débouché la baignoire avait raccordé le robinet d'eau froide de canalisation du numéro 13. À présent, Muffin et Emma pouvaient entendre distinctement et de façon amplifiée la conversation téléphonique du voisin. Même si l'on sait très bien qu'il n'est pas poli d'écouter les conversations des autres, parfois, la tentation est trop forte. Surtout quand on ne risque pas d'être surpris. Même si Muffin et Emma ne pouvaient entendre que des paroles de Monsieur Cooper et donc la moitié de la conversation, cette moitié fut suffisamment épouvantable pour s'avérer intéressante. « C'est Mike Cooper !»« Salut Cocotte !»« Excuse-moi pour l'heure tardive, mais j'ai passé l'après-midi au téléphone. » J'appelle juste pour te dire de rayer ton agenda tous tes rendez-vous de jeudi prochain. Oui, c'est ça, juste avant Noël. Ouais, une petite fête avec tous les collègues du bureau. Bien sûr que tu peux amener ton mari. Tout le monde sera là, enfin, j'espère. Non, non, pas Muffin, évidemment. Là, il éclata d'un énorme rire, décuplé par l'écho dans la tuyauterie. La fête serait complètement gâchée. À ce moment-là, Muffin aurait aimé avoir été emporté dans le siphon avec l'eau sale. Il aurait pu foncer comme un fou furieux chez Cooper pour faire tout un scandale. Il aurait pu hurler une grosse injure dans le robinet ou au moins expliquer la situation à Emma. Mais non. Il se contenta de fermer lentement le robinet en marmonnant. « Ça, sacré fasseur, ce Cooper. Et essayons l'eau chaude. »«
Ah ouais, c'est triste. Il est indésiré, ce monsieur Schlanger. » »«
Exact. Mmh. Au début, il ne s'en doutait pas du tout. Il pensait que, enfin, il était un peu froid, mais il pensait que ses voisins ne pensaient pas ça de lui. »«
Tu recommandes pour quel âge ?»
Eh bien, je ne veux pas faire des répétitions d'âge par rapport à l'autre livre que j'ai chroniqué, mais je vais quand même dire 10 à 11 ans.
Bah, merci beaucoup Blaise, à la prochaine chronique alors.
Merci beaucoup.
Et bien voilà, c'est la fin de l'émission maintenant Sandrine.
Déjà ?
Ouais, ça passe vite.
Ça passe vite.
Vrai, finalement, ça passe très vite.
Mais dis donc,
oui,
tu t'es déshabillée.
Bah ouais, j'ai eu un peu chaud. Enfin, je me suis déshabillée, on s'entend. Hein. J'ai enlevé ma veste. Bon, allez, à la semaine prochaine peut-être, si tu reviens.
Avec grand plaisir, à la semaine prochaine. Ciao,
super,
ciao.
Super, allez, bisous, bye.
Écoutez Le Nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous, bye.